La dernière décennie a été marquée par des mouvements de contestation sociale, comme celui des indignés en Espagne ou les gilets jaunes en France. Ils témoignent d'une remise en cause du capitalisme de marché, mais aussi de l'organisation des institutions politiques. Parmi les solutions qui gagnent du terrain, le municipalisme, qui propose de relocaliser le pouvoir politique à l'échelle des villes, fait figure de proue. En Espagne, en 2015, plusieurs villes dites « villes rebelles » ont élu des listes citoyennes ou d'union des forces de gauche. C'est le cas par exemple de Madrid, Barcelone ou encore Valence. Celle-ci, contrairement aux deux autres, a reconduit en 2019 la municipalité. Pour parler de ce processus démocratique et de la politique sociale que mène Valence, nous avons contacté par téléphone Antonio Montiel, politologue, avocat, professeur d'université, député à la Chambre régionale et membre du parti Podemos.
La ciudad de Valencia es la capital de una región autónoma, que es la región de la Comunidad Valenciana, y es también el referente político de todo ese territorio. La ciudad tiene unos 750.000 habitantes, 1.5 millones en términos de área metropolitana, y en una región que tiene 5 millones de habitantes, la región valenciana. Durante 24 años venía gobernando la derecha del Partido Popular, una derecha conservadora y de alguna forma heredera del franquismo en cuanto a ideología y en cuanto también a algunos de sus dirigentes.
Le background en fait politique avant les événements qui ont mené aux élections, c'est que Valence en fait c'est la capitale d'une communauté autonome qui compte au total plus de 1,5 million d'habitants si on prend les alentours et pas seulement la ville, qui a été dirigée depuis les 24 dernières années par la droite le PP, et qu'on peut considérer, selon lui, la suite ou la descendance du franquisme.
Hay una, pero además Valencia, el conjunto de la región y la ciudad de Valencia en particular, fueron también capital de la corrupción en España. Es famosa la participación de dirigentes políticos de aquella época, de cuatro presidentes de la región, tres, de cuatro presidentes del Partido Popular, tres están en este momento imputados y, de hecho, ya uno al menos condenado.
Valence a été aussi la capitale de la corruption politique avec trois de ces quatre anciens présidents qui sont... ils subissent des enquêtes pour l'instant, dont un qui a été condamné.
Durante el mandato de la derecha conservadora, se fue solidificando una serie de iniciativas ciudadanas y de actividades culturales que construyeron un proceso de convergencia que daba forma a la indignación.
Pendant que ces élus étaient au pouvoir, une d'action en parallèle ont été mises en place par les citoyens pour exprimer la contestation et mener d'autres actions.
Por tanto, ha habido un fermento largo de colectivos ciudadanos, de barrio, intelectuales, redes de defensa de la sanidad, de la educación, de la cultura y también del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda y a una ciudad habitable.
Donc c'est des entraides solidaires qui ont été mises en place pour aider à différents niveaux, que ce soit culturel, éducation, de l'aide hospitalière, pour permettre à tous d'y accéder, et notamment aussi au niveau de l'habitation.
En el 2015, la indignación ciudadana, los distintos colectivos, las distintas expresiones ciudadanas convergen en la necesidad de un cambio político.
Donc les différents groupes de contestation et l'indignation générale face au pouvoir mènent à un rassemblement des différents groupes qui justement en 2015 qui ont mené aux événements de l'indignation des indignés.
Y verdaderamente se produce ese cambio no tanto gracias a los propios partidos políticos, los partidos políticos tradicionales como el Partido Socialista, sino gracias al empuje de la ciudadanía que se concentra en dos fuerzas políticas en particular, que son Podemos, que entra por primera vez en las instituciones, y una organización amplia, una llamada Compromís, que se desarrolla en la Comunidad Valenciana.
Pour la première fois en 2015, durant ces élections, en dehors des deux partis politiques traditionnels, on voit arriver aux institutions des forces citoyennes. Donc, on peut en nommer deux, le parti politique Podemos, mais aussi une autre liste qui est propre à Valence, à la cité de Valence, qui est Compromís.
Realmente, el mérito del cambio de ciclo político es un mérito de unas redes sociales que se han ido construyendo y fortaleciendo a lo largo de los años de resistencia a los gobiernos conservadores. Y esa es la base fundamental del cambio.
Ce changement et ce qu'on a pu voir au moment des élections en 2015, ça a aussi l'aboutissement de la résistance sociale qui avait été mise en place pendant toutes ces années. Et donc, du coup, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça c'est vraiment un aboutissement.
Desde 2015, por tanto, se instala un gobierno de coalición en la ciudad de Valencia, un gobierno de coalición que básicamente ha repetido, ha sido posible también en el 2019. Aquí es curioso decir que mientras que Podemos formó parte del gobierno de coalición de la ciudad de Valencia en el 2015, desapareció en términos electorales en las elecciones de 2019, a pesar de lo cual se ha conseguido mantener un programa de izquierda.
En 2015 s'installe un gouvernement de coalition de gauche au gouvernement local de Valence, avec Podemos, le parti politique Podemos en 2015, mais il trouve ça intéressant de noter que Podemos en 2019 n'est plus au gouvernement local, mais ils ont quand même réussi à conserver cette coalition de gauche en 2019, mais cette fois sans Podemos.
Hay una paradoja, y es que en el 2015 Podemos impulsa el acuerdo del Botánico a nivel de la región y se consigue un gobierno de izquierdas formado por el Partido Socialista, Compromís y con el apoyo externo de Podemos, el apoyo parlamentario de Podemos, mientras que y en la ciudad sí que existe Podemos y entra en el gobierno municipal del ayuntamiento, mientras que en 2019 Podemos está presente en el gobierno regional, pero desaparece del gobierno municipal, del gobierno local de la ciudad de Valencia.
Il y a un paradoxe du fait que Podemos est un moteur du changement politique en 2015, mais en 2019, il est toujours présent au gouvernement régional, mais il n'est plus présent au gouvernement local.
Creo que eso puede explicarse en parte porque hay una desconexión de Podemos a nivel ciudad de Valencia respecto de los colectivos sociales a los que debía su éxito.
Et il pense qu'une des raisons de ces événements, c'est que Podemos, en tant que parti politique, à force de d'être sur l'ensemble du territoire, il n'est plus connecté aux enjeux locaux de la ville de Valence et du coup, ça expliquerait pourquoi il n'est plus présent dans ce gouvernement local.
Mi teoría es que se produce una paradoja y es que mientras se puede obtener un buen resultado en unas elecciones convencionales en el ámbito regional o estatal, en base a una buena campaña, unos buenos líderes o una buena propaganda, en lo local es muy difícil hacer y tener éxito electoral si los portavoces, si los miembros de la organización política, en este caso Podemos, no saben conectar, no pueden, no son capaces de mantener la complicidad con los colectivos sociales y con el tejido de barrio que sustenta la masa, la capacidad de un resultado electoral favorable.
Sa théorie, c'est que si au niveau régional et étatique, il est possible d'obtenir de bons résultats électoraux à travers simplement les techniques politiques conventionnelles, donc une campagne électorale ou une campagne électorale traditionnelle avec de la communication comme on la connaît aujourd'hui, il est compliqué d'avoir un bon résultat au niveau local si les représentants politiques et les porte-parole ne sont pas capables de maintenir une connexion avec la vie des quartiers et les réseaux sociaux d'entraide sociale qui sont vraiment très internes à la ville.
Hay un factor adicional que fue que en el año 2019 emerge la extrema derecha española en las instituciones y la necesidad de hacer frente a una extrema derecha que no existía en el 2015 también provoca que una concentración de voto en algunas fuerzas políticas donde Podemos sufre una reducción de sus expectativas electorales.
Les mauvais résultats de Podemos en 2019 peuvent être aussi expliqués par le fait que en 2017, une émergence de l'extrême droite espagnole s'est faite alors que c'était un cas qui n'existait pas en 2015. Et du coup, en tant que parti politique assez nouveau, Podemos a souffert de la concentration des voix des votants de gauche sur les partis de gauche plus traditionnels.
Yo creo que esa es una de las dos diferencias fundamentales entre los resultados de 2015 y de 2019. Por uno, la dificultad de Podemos de mantener la complicidad con los colectivos de indignados y colectivos de todo tipo, ciudadano y social, en distintos frentes. Y por otro lado, la amenaza de la extrema derecha que hace que se imponga una lógica de voto útil.
En conclusion, selon lui, les deux raisons pour lesquelles Podemos n'a pas fait les mêmes résultats en 2015 et en 2019, c'est que en 2019, il n'a pas réussi à maintenir le lien avec les collectifs d'indignés, les collectifs sociaux qui s'étaient mis en place au sein des villes, mais aussi l'émergence d'une extrême droite qui a donné lieu à un phénomène de vote utile de la part de tous les votants de gauche.
Donc ce mouvement, je ne sais pas si on peut le qualifier de municipaliste, il est donc lié à la contestation sociale qui est née en Espagne, qui fait suite à la crise économique. Et donc on peut s'attendre qu'une fois le gouvernement en place, le gouvernement local en place, on peut s'attendre à ce qu'il applique des mesures justement pour réduire les inégalités sociales, que ce sera un des premiers objectifs politiques. Donc, est-ce que c'était le cas? Et si oui, quelles ont été ces mesures premières, en fait?
Yo creo que la resistencia viene de antes de la crisis del 2007 y 2008. Lo que ocurre es que a partir del 2007-2008, de alguna manera, la estructura del sistema implosiona. Se hace visible la corrupción cuando se produce un agudizamiento de las contradicciones del capitalismo y también una agudización de las desigualdades sociales.
Donc, d'après lui, la résistance existait bien avant la crise économique, les forces existaient bien avant la crise économique, mais que suite à la crise économique, il y a eu une explosion du système qui a mis en lumière les inégalités, la corruption, et ça a donné à voir tous les problèmes du système qui a été engendré par le capitalisme.
La politique municipale, en esta primera legislatura, una política municipal que intentó atender las urgencias de la crisis, las urgencias en materia de desigualdad, pero también empezar a sentar las bases de un modelo de recuperación de la ciudad a partir de inversiones públicas y de tratamiento de los barrios. los barrios con más dificultades, en situación más crítica.
Donc la politique qui a été mise en place par le gouvernement local après les élections, ça a été de faire face aux conséquences de la crise et d'aider les quartiers les plus en difficulté qui ont le plus souffert de cette crise et aussi de commencer à mettre les bases pour avancer ensuite.
La récupération sociale et urbanistique de barrios degradados como los poblados marítimos, como el Cabañal o como el centro histórico de la ciudad, una política de vivienda, equipamientos públicos y también una política de estímulo de la iniciativa de los colectivos sociales, de la iniciativa privada.
Une politique de récupération sociale de la ville, notamment en prenant soin entre guillemets des quartiers les plus touchés, notamment par la dégradation. Donc ça serait le centre historique, le port, de les rendre plus vivables pour le public.
No, decía que en todo caso la etapa del 2015-2019 es una etapa que deja muchas tareas pendientes, que deja algunos proyectos iniciados, y uno de ellos es un cambio radical en el sistema de movilidad urbana, potenciando el transporte público y, sobre todo, el uso de transporte no motorizado, el uso de la bicicleta y buscando también la recuperación del medio ambiente urbano.
L'étape de transition 2015-2019 a laissé selon lui beaucoup de projets en cours, notamment en récupération, réappropriation de la ville, du changement de système de mobilité urbaine, notamment une transition vers une mobilité non motorisée comme le vélo.
Il a plusieurs fois parlé de corruption. Et on peut aussi supposer que dans un mouvement municipaliste, l'objectif est de reconquérir les institutions politiques pour qu'elles soient mieux appropriées par les citoyens. Et donc, comment justement organiser les institutions pour la participation citoyenne ?
Una de las grandes iniciativas de la legislatura 2015-2019 en el Parlamento Regional, en las Cortes Valencianas, fue la aprobación de una ley de creación de una agencia regional de prevención del fraude y la corrupción, una agencia que está funcionando incluso a pesar de que algunos socios de gobierno tenían algunas dificultades. Esta fue una iniciativa de Podemos, una iniciativa exitosa, que ahora se ha consolidado y está funcionando con enorme éxito.
Une des initiatives qui a été mise en place par Podemos notamment, c'est ce qui a été voté, c'est une agence de prévention de la fraude et de la corruption. C'est une agence qui est maintenant opérationnelle et qui rencontre beaucoup de succès, même si au moment de sa création, il y a certains politiques qui ont essayé de s'y opposer.
Y otra iniciativa puesta en marcha a nivel municipal en la ciudad de Valencia fue en los presupuestos participativos. Sí, decía que todavía es una cantidad pequeña, apenas 8 millones de euros en inversiones que pueden decidir los ciudadanos y ciudadanas, pero que es un buen principio en el que hay que profundizar, es una buena estrategia para ir ampliando progresivamente la participación de la ciudadanía.
Une autre initiative qui a été mise en place, mais seulement au niveau local, c'est la mise en place de budget participatif et encore un projet pas très développé. Ils ne sont encore qu'à 8 millions d'euros de budget participatif, mais que la place qui est laissée à ce budget est encore petite.
Creo que ha fallado, hay una asignatura pendiente que es el proceso de descentralización del ayuntamiento, descentralización de la municipalidad en juntas de distrito u otras herramientas que puedan favorecer una participación desde los barrios. creo que esa descentralización para favorecer la participación no ha funcionado correctamente y sigue siendo una asignatura pendiente de la nueva corporación nacida del 2019.
À son avis, une des initiatives qui n'a pas marché pour l'instant, c'est la décentralisation des institutions locales vers des institutions telles que la mairie pour un déplacement vers les quartiers afin de favoriser la participation des citoyens directement dans les institutions.
Bueno, yo creo que continúa la actual situación de la emergencia sanitaria, el confinamiento, el coronavirus y los problemas socioeconómicos que va a comportar nos llevan a la necesidad de hacer un llamamiento a reforzar las redes sociales, las redes participativas de los distintos actores. Creo que hay que rearmar a la sociedad civil porque después de una legislatura de izquierda, el 2019 comenzó con una cierta comodidad desde la tranquilidad de haber mantenido una, aunque más reducida, pero haber mantenido un gobierno de izquierdas, pero esa confianza se ha quebrado por efecto de la nueva situación y habrá que plantearse un trabajo de base importante.
La situación sanitaria actual ha mis en lumière qu'il fallait vraiment permettre à tous les citoyens de se rendre plus acteurs. C'est quelque chose qui a été mis en lumière notamment lors du confinement que l'on vit et que ça allait être fondamental ensuite pour affronter les conséquences socio-économiques qui vont être le résultat de la situation actuelle et que ça allait être un défi pour le gouvernement local en place de conserver la confiance des citoyens tout au long de cette situation.
Parmi les villes rebelles d'Espagne, celles qui ont élu une liste citoyenne en 2015, beaucoup n'ont pas été reconduites. On pense par exemple à Madrid ou Barcelone en 2019. Alors pourquoi justement Valence, ça a fonctionné? Pourquoi la même liste a été réélue en 2019?
Et es complicado de responder. Es cierto que en el 2019 ciudades como Madrid o como Zaragoza se perdió la mayoría de izquierdas y volvieron a manos de la derecha conservadora. Probablemente el desgaste de gestión, el desgaste que comportaban los primeros gobiernos de coalición y hacer frente a una gestión municipal después de décadas de gobiernos conservadores, dificultó el funcionamiento de la coalición de izquierdas en muchos de estos ayuntamientos. Pero creo que sobre todo hubo un terremoto político que fue la manera en la que irrumpió la extrema derecha, no solo en términos electorales, sino en términos ideológicos. La peor batalla con la extrema derecha no es la batalla electoral. La aritmética electoral, los sistemas de cómputo de voto, a veces pueden dar lugar a resultados extraños, incluso ganar perdiendo en términos ganar el gobierno, incluso perdiendo en términos electorales. La principal batalla con la extrema derecha es la batalla ideológica, la batalla cultural. La extrema derecha había conseguido colocar en el 2019 muchos de sus argumentos. Y la izquierda gobernante tuvo muchas dificultades para defenderse en términos ideológicos y culturales y al mismo tiempo mantener una adecuada gestión institucional.
En 2019, la razón por la cual ces grandes villes ont été perdus par les listes indépendantes de gauche, c'est notamment parce que face à la reprise des gouvernements locaux après des dizaines d'années sous le pouvoir de droite. Ils ont dû faire face à des dépenses afin de compenser, entre guillemets. Et du coup, ces compensations ont mis à mal leur gestion interne du gouvernement. Et en parallèle, ils ont dû faire face au moment des élections en 2019 à la montée de l'extrême droite et à une bataille électorale et idéologique qui a donné lieu à des résultats électoraux assez bizarres, puisque les systèmes électoraux espagnols font que on peut gagner un gouvernement local même si en nombre de voix on est en train de perdre. Ça a créé beaucoup de bizarreries aussi au niveau électoral.
La izquierda en general tiene una debilidad estructural, y es que en la lógica de afirmación de sus, digamos, de su identidad ideológica y de la bondad de sus objetivos, ha dejado de lado muchas veces el conocimiento técnico necesario, la apropiación del conocimiento técnico necesario para la gestión de los resortes del Estado, de los resortes de las instituciones. Ese es un trabajo en el que la izquierda suele tener un déficit.
Beaucoup de débats ont été perdus au niveau politique, notamment parce que la gauche fait preuve d'un défaut de structure gênant qui serait en fait la multitude d'objectifs qu'elle souhaite remplir, fait qu'ils ont dans leur argumentation souvent laissé de côté le côté pratique de la mise en place de des réformes qui seraient mises en place et du coup ils ont perdu cette nécessité d'expliquer comment ils s'approprieraient les institutions pour mettre en place et pour répondre aux objectifs pour lesquels ils se présentent.
Esa debilidad hace que la puesta en marcha de muchas de las reformas, de muchas de las medidas políticas que había que implantar fuera excesivamente lenta. A esa lentitud se añadía la ausencia de una cultura de gobierno de coalición, que había que ir construyendo una complicidad entre los socios de izquierdas, y eso ofreció una debilidad que supo aprovechar muy bien el discurso demagógico de la extrema derecha, que consiguió colocar algunos de sus argumentos culturales para desprestigiar la gestión de las ciudades que nacieron rebeldes en 2015 y volvieron a ser conservadoras en 2019.
Cette faiblesse a fait que il y a eu une grande lenteur dans la mise en place des réformes et aussi, il y avait un manque de culture, de coalition, de connaissances en comment on gère une ville en coalition, ce qui a permis à l'extrême droite qui se développait de s'insérer dans la faille, en fait. Et du coup, ça explique pourquoi beaucoup de villes qui, en 2015, étaient rebelles et de gauche, sont de nouveau, en 2019, des villes conservatrices de droite.
Yo creo que ahora hay dos factores que cambian las cosas. Por un lado, la nueva situación socioeconómica derivada de los efectos de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 va a agudizar las desigualdades sociales, va a crear tensiones socioeconómicas, lo cual puede generar un resurgir del movimiento de los indignados. Y por otro lado, la existencia de una coalición de izquierdas a nivel nacional por primera vez desde hace 80 años. Esa coalición de izquierdas tiene la misión, entre otras, de derogar leyes de la época conservadora que limitaban la capacidad de acción de los municipios, de las ciudades. Las leyes conservadoras de los últimos gobiernos del Partido Popular ataron de pies y manos a los ayuntamientos para el desarrollo de ciertas políticas sociales y de ciertas políticas de lucha contra la desigualdad o de lucha contra la violencia de género, por ejemplo. Creo que si el gobierno de coalición
se apresura
en cambiar ese marco legal, permitirá que las ciudades cobren un nuevo protagonismo, el espacio local cobre un nuevo protagonismo, y si los indignados, los nuevos parias de que va a generar la post-crisis del COVID-19 se movilizan, podríamos retomar una fortaleza en los movimientos sociales capaces de abrir espacios de nuevo a la izquierda y aprender de los errores.
Il dit qu'il y a deux nouveaux facteurs qui font que le jeu politique soit un peu bouleversé, donc notamment le fait qu'il va y avoir de nouvelles tensions socio-économiques qui vont être générées par la situation actuelle, donc le confinement et la situation sanitaire, et le fait que aussi la coalition de gauche au niveau national va pouvoir maintenant enlever certaines barrières auxquelles ils étaient confrontés les coalitions de gauche au niveau régional et local, en supprimant des lois anciennes qui laissaient en fait les gouvernements locaux pieds et poings liés sans pouvoir exercer autant de pouvoir avec autant de liberté qu'ils l'auraient voulu. Donc ça va peut-être selon lui mener à un second souffle du mouvement des indignés et peut-être placer la ville comme nouveau protagoniste politique au cœur des préoccupations de tous les citoyens.
Antonio Montiel, politologue, avocat, professeur d'université, député à la Chambre régionale de Valence, membre de Podemos. Un entretien au sujet de la politique locale menée à Valence et des perspectives de démocratisation de l'organisation politique en Espagne. Merci à Inès Chevalier pour la traduction et François Annick de Colère du Présent pour l'organisation de cette rencontre. Pour en savoir plus au sujet de cette ville, nous vous invitons à regarder le documentaire « Valence, ville rebelle » réalisé par Jérôme Skalski, auquel participe justement Antonio Montiel. Il sera diffusé par Colère du Présent sur le site mondedapres.com le samedi 2 mai à 15h30.